Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant.info sur Internet. Et puis Free, c'est aussi sur la TV Perso, canal 99. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Alix. Stéphane Alix, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Stéphane, tu es déjà intervenu pour nous parler notamment de l'INRES, de tes différents travaux. Et aujourd'hui, tu vas continuer à nous narrer tes aventures. Finalement, tu es encore un peu grand reporter, hein.
Ah bah oui, ça on n'arrête jamais de l'être. Ça.
On n'arrête jamais de l'être et ça on en reparlera aussi dans quelques instants. Alors avant de débuter à proprement parler dans quelques minutes, cette émission consacrée à ton dernier voyage, une émission toute en longueur qui va prendre 2 heures de temps, donc on va vraiment avoir le temps, le loisir de développer. Tu vas nous parler de la soirée qui a lieu jeudi soir, donc pour l'INRES, jeudi prochain. Nous serons le 24, si je ne me trompe
le
pas.
Le 24 janvier.
Le 24 janvier, la Société de Géographie, toujours.
Toujours la Société de Géographie, toujours à 18h30, donc 184 boulevard Saint-Germain.
Et alors, que va-t-il se passer? Quels sont vos récents travaux ou le film que vous avez diffusé?
Alors le film est un film qui s'appelle « Voir », entre parenthèses « Sans les yeux ». C'est un film qui n'est pas directement lié aux expériences extraordinaires, mais qui, moi, m'a beaucoup inspiré quand je l'avais vu il y a quelques années. C'est un film sur la cécité, sur les non-voyants. Et pour ceux qui connaissent mon bouquin « Extraterrestre, l'enquête », ils se souviendront peut-être que dans le début du livre, je fais une grande parenthèse sur les modes de perception et sur la façon dont la réalité dépend, la réalité que l'on observe dépend de la façon dont on l'aperçoit. Et ce film m'avait fait découvrir un professeur de théologie de l'université de Oxford en Grande-Bretagne qui s'appelle John Hull, qui a commencé à avoir des problèmes de vue dans la fin de l'enfance et qui est devenu totalement aveugle à l'âge de 45 ans. Et ce monsieur, dont j'ai découvert l'existence dans le film de Marie Mandy, Voir sans les yeux, qu'on projette jeudi, a réussi à trouver des mots extrêmement clairs, nets, précis, dépassionnés pour expliquer ce que c'était que la cécité. Et il a dit une phrase, moi, dans ce film qui m'a vraiment marqué. Il a dit « J'ai compris en étant aveugle que je ne voyais pas avec mes yeux, mais que je voyais avec mon cerveau ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les yeux sont juste un outil perceptif qui font parvenir au cerveau un influx nerveux électrochimique, mais qu'en soi, il n'y a rien. Cet influx n'apprend rien sur la réalité de ce qui est perçu. Toute la réalité du monde, des objets que l'on voit, se reconstruit à l'intérieur du cerveau. Et ça, c'est un processus qui n'a rien de perceptif, mais qui est un processus plus lié à ce que l'on a appris, à ce que l'on sait de la réalité déjà. Et voilà. Et donc ce film ouvre à travers le cas de John Hull et puis plein d'autres exemples sur les questions de est-ce que ce que l'on voit est vraiment ce qui existe, et quand on ne le voit plus, est-ce que ça cesse d'exister. Donc c'est un très très beau film qui dure 1h30, c'est un 90 minutes qui est jamais projeté en salle, donc ça serait une grande première pour les gens qui voudront venir le voir. J'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre, 18h30, boulevard Saint-Germain, 184 boulevard Saint-Germain.
On est donc sur ce thème de l'arbre qui tombe dans la forêt tout seul, fait-il du bruit en tombant?
Oui, c'est vrai qu'on peut. J'ai pas pensé à cet exemple-là, mais moi, ce qui m'a, j'avais relié en fait cet exemple que j'ai utilisé dans mon livre à un des premiers témoignages d'observation d'OVNI que je cite aussi au tout début du bouquin, que les internautes et les auditeurs connaissent sans doute, qui est le cas de l'Amarante, pardon. Où un monsieur en 1982 à Nancy voit un objet se poser dans son jardin, enfin pas se poser d'ailleurs, arriver dans son jardin, rester une vingtaine de minutes en état stationnaire et puis partir très très rapidement. Moi, ce qui m'avait extrêmement frappé et même très très troublé en lisant le procès-verbal de gendarmerie du témoignage de ce monsieur, c'est que ce type, qui est a priori en plus d'une formation scientifique, donc est habitué à décrire quelque chose, arrive à peu près à décrire le dessous de l'objet qui est dans son jardin, qui va observer 20 minutes, mais il n'arrive pas à décrire le dessus de cet objet. C'est-à-dire qu'il a en face de lui quelque chose qui est tellement étranger à son quotidien, à son univers, qu'il n'arrive pas à trouver de mots. Il dit « ça ressemble à ci, ça ressemble à ça ». Il le voit, il l'observe, il tourne autour, il essaye même de le toucher, mais il a peur, donc finalement il ne le fait pas. Mais voilà, ce qu'il le voit, il n'arrive pas à construire quelque chose de cohérent dans son cerveau. Et pour ceux qui viendront jeudi, vous verrez dans le film et à travers l'exemple de gens qui ne voient pas bien ou qui sont totalement aveugles, que effectivement, la perception directe n'est pas une information avérée sur ce que l'on croit être réel ou ce que l'on ne croit pas être réel. Et d'ailleurs, on parlera peut-être de ça à la fin de après la projection. Un des membres d'honneur, un des premiers membres d'honneur de l'INRES, Kenneth Ring, que j'ai d'ailleurs vu aux États-Unis la semaine dernière, a fait une étude, je crois que c'est la seule étude d'ailleurs, sur les NDE d'aveugles, des gens qui étaient aveugles et qui ont vécu une NDE. Donc il a fait dans son étude, il a pris des gens qui étaient aveugles de naissance, donc ils n'ont jamais eu de leur vie la moindre perception visuelle. Il a fait une autre étude aussi, toujours dans le même livre, sur des gens qui sont devenus aveugles en cours de vie, donc ont eu un accident et qui ont vécu malgré tout une NDE. Et ces conclusions, j'en parlerai plus en détail peut-être jeudi, sont assez troublantes parce que voilà, des gens qui n'ont plus d'organes de perception perçoivent l'environnement, des couleurs, des choses, des formes dans leur NDE. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour de la cécité et ça nous voilà, il suffit qu'il y ait un de nos organes perceptifs qui soit inopérant et tout d'un coup le monde change complètement.
On développe plus les autres.
Voilà.
C'est donc jeudi, Société de Géographie, 18h30.
18h30, toutes les infos, bande-annonce du film sont sur le site internet comme d'habitude, inr2es.com, inres.com, voilà. Et j'invite le maximum de gens à venir, le film est magnifique, très très beau et c'est pas cher du tout, c'est 5€ et 3€ pour les adhérents.
D'accord, et donc avec après une conférence et
après une discussion,
une discussion plutôt, oui, tout à fait.
Voilà les travaux en cours et puis questions-réponses autour de ces questions comme d'habitude.
Parfait, Stéphane Alix. Voilà. Donc rendez-vous jeudi et nous allons maintenant pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet et en prenant appui sur les travaux de l'INRES, sur ce livre de travail, cette bible, devrais-je dire, que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. À partir de là, on va pouvoir parler de ton voyage, de tes rencontres, de ce qu'elles ont donné et de ce qui en est ressorti ou ce qui va en ressortir dans quelques instants lors de cette émission. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Stéphane, tu es grand reporter, journaliste, ancien grand reporter, ça je ne sais pas, on en saura plus dans quelques instants. Tu es aussi fondateur de l'INRES et tu viens aujourd'hui à nouveau sur notre antenne pour nous conter ton voyage et tes rencontres. Je sais que cette émission va être passionnante. Stéphane, tu as rencontré plein de personnes intéressantes, des chercheurs, des scientifiques, dans un but bien précis, celui d'écrire un recueil, un livre, un document de travail, je ne sais pas exactement, c'est toi qui vas nous le dire, pour l'INRES. Alors, qu'es-tu parti faire et où ?
Alors, je suis parti aux États-Unis une quinzaine de jours, tout début janvier. Effectivement, dans le cadre des recherches que l'on mène aujourd'hui à l'INRES, comme je l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises lors des précédentes interventions sur cette même antenne, la priorité des priorités de l'INRES aujourd'hui, qui existe depuis quelques mois maintenant, c'est de synthétiser et de poser à plat un petit peu les connaissances qui ont été acquises parfois depuis plusieurs décennies sur ce que l'on appelle communément les expériences extraordinaires. Parce qu'en dehors d'un petit cercle de gens comme ceux qui nous écoutent et puis quelques autres rares qui savent de quoi on parle, la majorité des gens ne savent pas trop de quoi il s'agit, c'est quoi expérience extraordinaire, ah bon c'est pas des trucs bizarres, ah bon ça existe, c'est pas des malades. Enfin voilà, il faut un peu clarifier le débat, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un enlèvement extraterrestre, qu'est-ce que c'est qu'une possession, qu'est-ce que c'est qu'une expérience d'extase mystique. Voilà, toutes ces choses-là qui sont vécues d'une façon extrêmement fréquente par énormément de gens restent un peu dans le non-être, dans le non-existant. Donc la priorité de l'INRES, c'est de synthétiser dans un bouquin qui s'appellera provisoirement le manuel de description clinique des expériences extraordinaires l'ensemble des connaissances qui ont été forgées dans le monde scientifique, dans le monde de la santé mentale, non pas parce que ces expériences sont dues à des pathologies, justement pas, mais parce que les gens qui travaillent dessus, psychiatres, psychologues, ceux avec qui on a côtoyé, ont une expérience de l'exploration de l'expérience humaine, du subjectif et de tout ce domaine qui demande à être abordé avec beaucoup de prudence.
Un livre référence donc.
On veut essayer de faire un livre effectivement qui puisse être utile aux gens qui sont confrontés à ça, donc à des parents qui s'inquiètent pour leur enfant qui a quelque chose ou qui traverse des expériences bizarres, pour des médecins, pour des infirmières, pour des gens qui sont peut-être un peu perdus, surtout pour légitimer l'écoute et l'accueil et le travail autour de ces questions, parce que il n'y a rien de plus déstabilisant pour quelqu'un qui vit une expérience bizarre, qui ne le comprend pas, de ne pas pouvoir l'exprimer. Même au sein d'une famille, même pour des expériences qui sont relativement classiques et acceptées aujourd'hui comme les NDE, donc les expériences de mort imminente, c'est vrai que ça peut être très très fort comme expérience, très très fort dans le pas forcément dans le trauma, mais simplement l'intensité de l'expérience, et le fait de ne pas pouvoir en parler déjà à son médecin qui va être le premier, ou à l'infirmière qui vont être les premiers à recevoir le récit de cette personne une fois qu'elle va être animée par exemple, bah c'est dur de devoir la garder. Donc le manuel, ça va s'adresser à la fois aux proches de cette personne, mais ça va aussi s'adresser aux soignants pour leur expliquer qu'il y a d'autres soignants, il y a des médecins, il y a des gens très compétents qui ont travaillé là-dessus, qui ont eu une approche clinique, donc qui sont capables de décrire un peu les caractéristiques de ce type d'expérience. Et surtout, et ça va être la spécificité de notre travail, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a vécu ça? On sort du débat idiot qui est de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est quelque chose d'absolument stérile, et on va proposer nous des solutions d'approche, des solutions pour intégrer ces expériences et pour faire un peu avancer le débat. Mais ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Mais alors, ce livre sera disponible en librairie? C'est un livre que vous voulez sortir pour le grand public?
Oui, c'est un livre qui sera accessible au grand public. D'accord. En librairie, qui sera, je l'espère, disponible à l'automne. On travaille ardemment, il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaille déjà depuis plusieurs mois dessus.
À l'automne 2008, hein.
À l'automne 2008, voilà, j'espère. Enfin, je m'avance peut-être un peu vite, mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé.
Mais alors, ces personnes que tu es allé rencontrer, avant de dire où tu les as rencontrées et qui, est-ce qu'ils ne font pas partie de cette marge de scientifiques décriée par un système un petit peu trop conventionnel, ou est-ce qu'ils ont toute leur place ?
Non, ils sont pas décriés du tout. Ils l'ont peut-être été, mais là, les gens qu'on a vus sont des gens qui ont vraiment des positions très établies, qui sont psychiatres, qui sont des gens vraiment référents dans ces domaines. Quelqu'un des plus connus, qui est un de nos membres d'honneur d'ailleurs, Stanislas Grof, est quelqu'un qui a développé le concept de psychologie transpersonnelle depuis des décennies. Un de nos autres intervenants, dont je parlerai aussi, est un des très très nombreux contributeurs du DSM, qui est le manuel de description clinique de la psychiatrie, donc qui est un ouvrage extrêmement consensuel et référent de l'Association psychiatrique américaine. Donc voilà, ce sont des gens qui sont vraiment intégrés dans le système. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce qui nous intéresse aussi à l'INRES, c'est de ne pas faire une recherche qui soit marginale et qui, de fait, ne touche que très, très peu de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer que ces sujets ont été explorés et étudiés par des gens de façon très consensuelle, d'une manière très acceptable par le monde médical. Et c'est peut-être justement ce problème de communication qui fait que un certain nombre de sujets sont encore cantonnés aujourd'hui au domaine de l'étrange, du bizarre, alors qu'ils sont, ils peuvent être étudiés de façon tout à fait légitime. Ça arrive à des millions de gens à travers le monde. Donc soit on ferme les yeux et en ça on est un petit peu enfantin parce qu'on s'interdit de regarder les très nombreuses recherches, les très nombreuses études qui ont été faites, soit on constate effectivement, comme on va le faire et comme on le présente nous à l'INRES, c'est tout à fait légitime, que des médecins travaillent normalement dessus, qu'ils ont les cheveux courts, des chemises normales et qu'ils ne sont pas en train de fumer la moquette, comme on dit.
Mais alors, t'es parti où pour faire ces recherches?
Là, je suis parti essentiellement aux États-Unis parce qu'on voulait...
Pourquoi?
Parce que c'est toujours un petit peu... peut-être rageant de dire ça, mais dans certains domaines, dans celui-là en particulier, ils sont vraiment pionniers. Même si paradoxalement, en France, on a une recherche en parapsychologie qui est antérieure à celle qui est faite aux États-Unis, c'est plus offensif là-bas. Il y a des instituts de recherche, il y a des livres qui sont publiés, il y a une vraie possibilité de non pas entamer des recherches à très grande échelle, mais au moins de faire vivre un peu cette curiosité, cet espace. C'est d'ailleurs pour ça que l'INRES a été fondée ici, pour pouvoir légitimer et faire vivre ça au plus grand, d'une façon plus importante en France. Je sais pas, quand j'avais fait mon enquête auprès des enlevés et des gens qui vivent ces expériences d'enlèvement extraterrestre, et notamment auprès de John Mack aux États-Unis, encore une fois, j'avais fait le test dans un restaurant à Boston de parler à la serveuse, de savoir si elle savait ce que c'était que les abductions. Et oui, elle savait parfaitement ce que c'était que les abductions. C'est vrai que si on pose la question en France, c'est un sujet qui est très très peu connu. Bon, est-ce que c'est dû à la jeunesse du pays, au fait qu'il vous arrive n'importe quoi, vous en parlez à un talk show? Je sais pas, mais... Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens en France et en Europe qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est vrai que à Harvard ou ailleurs, dans d'autres universités aux États-Unis, il y a vraiment des moyens, on a l'impression qu'ils sont mis. Il y a une jeunesse d'esprit qui permet peut-être de travailler de façon moins cloisonnée sur ces questions-là, de créer des passerelles entre différents univers. Voilà, il y a beaucoup d'excès aussi. Hein.
C'est intéressant, ça, les passerelles entre différents univers, ce qui peut manquer en France. On voit que des personnes essayent de changer la donne. Je pense notamment à Jean Stone, hein, qui veut réunir différentes intelligences, je vais dire, pour toutes les mettre ensemble, les réfléchir ensemble pour arriver à plusieurs idées, ce que chacun de son côté on ne peut pas faire. Et c'est trop souvent le cas, hélas, en France. Mais comme tu le rappelais, il y a des personnes qui cherchent et qui avancent sur les domaines qui intéressent l'INRES. Aux États-Unis, on mélange les genres.
Oui, et puis on ne s'interdit pas forcément de poser un certain nombre de questions, de réfléchir. Il y a un sujet qui est très très sensible, c'est le sujet de la spiritualité. J'ai des difficultés à employer ce terme ici parce que justement il est très connoté. Il laisse à penser que ça y est, on part dans une histoire de secte ou de religion, je ne sais quoi. Moi, j'ai abordé cette question justement avec différents chercheurs qu'on a rencontrés, notamment à San Francisco, à l'Institut de psychologie transpersonnelle, avec des gens qui, encore une fois, ont les pieds très sur terre. Mais quand on est face à des phénomènes justement qui transcendent un petit peu la conception de la réalité que l'on a, la vision très matérielle du monde, on est en face à des phénomènes, à une réalité, à des résultats d'expérience qui violent notre conception du monde, notre conception des choses. Donc qui font appel à une autre dimension de la réalité qu'on est obligé d'intégrer parce que c'est le résultat d'expérience. Et comme me le disait Dean Radin ou Russell Tarr, qui sont des chercheurs en parapsychologie confirmés, on fait des expériences en parapsychologie qui sont 10 fois plus rigoureuses que d'autres expériences en sciences plus classiques et qui donnent des résultats très très probants. Donc on est obligé d'intégrer ces résultats. Et ces résultats, quand Charles Tart, pardon. Quand Charles Tart me dit il y a 5 domaines en parapsychologie qui sont maintenant prouvés, reprouvés et surprouvés, télépathie, clairvoyance, vision à distance, télékinésie et j'ai oublié le cinquième. On y reviendra.
Tu le retrouveras plus tard, oui.
On retrouvera plus tard. Quand on peut envoyer un message ou une information d'un cerveau à un autre cerveau alors que l'un des cerveaux est dans une cage de Faraday et que rien de matériel ne peut atteindre son cerveau, on fait appel à une autre dimension, à autre chose. On peut effectivement se bloquer sur la question « c'est pas possible, je veux pas entendre parler ». Bon, c'est pas une démarche très scientifique, mais quand on constate les résultats et l'occurrence de ces résultats et les statistiques indiscutables qui montrent que la télépathie est une réalité prouvée en laboratoire, on est obligé de trouver un terme, un mot. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une dimension spirituelle? Oui, mais pas spirituelle, religieuse, c'est pas l'église, c'est pas les croyances, c'est pas les sectes, c'est... quelque chose fonctionne hors du monde matériel et a quand même une incidence sur le monde matériel.
Oui, tout à fait. Nous essayons aussi à la radio de redonner son vrai sens au mot spiritualité, ouverture et non pas fermeture, effrayeur. L'ouverture, la spiritualité. Stéphane Alix, tu nous parles de ces chercheurs et de ces scientifiques. Tu nous parles aussi de travaux, d'études, de choses prouvées, c'est-à-dire qu'il y a des universités ou des formations reconnues aux États-Unis?
C'est malheureusement pas d'une si grande ampleur. Il n'y a pas non plus autant de chercheurs que ça. Charles Tart, dont je parlais, donc qui est professeur notamment de parapsychologie, mais de beaucoup d'autres choses à l'Institut de psychologie transpersonnelle à San Francisco, enfin à Palo Alto, est également enseignant à l'Université de Californie. Il est enseignant en parapsychologie, donc c'est un des rares cas. Il y a Dean Radin, qu'on a rencontré aussi, qui travaille lui à l'Institut de recherche noétique, qui est un organisme privé, une fondation, enfin un institut de recherche un peu comme l'INRES, qui eux sont financés uniquement par les cotisations des membres et par des donations, mais qui font des recherches. Dean Radin fait des recherches expérimentales très poussées sur les domaines de parapsychologie.
Tu vas donc, pendant cette émission, nous raconter tes rencontres avec ces chercheurs et ces scientifiques, ce qu'il en est ressorti, ce que tu comptes en dire. Je ne sais pas si tu vas pouvoir tout dire de ce que tu as entendu.
Ça va être vaste, oui.
Ça va être très très vaste. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette émission, donc consacrée au retour de voyage de Stéphane Alix. C'est un drôle de thème, oui, vous allez voir, c'est passionnant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Notre invité est aujourd'hui Stéphane Alix. Alexandre, avec vous pour écouter, tout comme vous, ses aventures et poser quelques questions. Alors Stéphane, qui as-tu rencontré? Par quoi as-tu commencé? As-tu ciblé une catégorie de personnes? Explique-nous ça.
Non, c'est ça qui a été très riche justement dans ce voyage, c'est qu'on a essayé, je dis on parce que j'ai retrouvé mon ami Paul Bernstein à Boston qui travaille avec moi sur ce projet, qui est coéditeur du manuel, donc si je dis on pendant l'émission, c'est pour ça. On a essayé justement de rencontrer le plus grand éventail de gens qui ont travaillé sur ce type d'expérience. On a commencé en fait à Boston, où j'ai retrouvé Paul, pour travailler sur, je dirais, l'expérience extraordinaire qui est la plus difficile, la plus problématique, qui est celle des enlèvements extraterrestres, que je connais déjà pas mal pour avoir travaillé là-dessus avec John Mack, pour avoir fait un livre aussi sur le sujet. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'exploration de la méthodologie, parce que la question de base, la question de départ sur toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, c'est de se dire, on a affaire à des fous. Quand des gens disent vivre quelque chose qui n'est pas possible, c'est qu'il y a forcément une origine pathologique. Bon, ça, on va y revenir, je pense, dans le cours de l'émission, mais ça, c'est, je dirais, la clé de toute notre enquête. Ce qui arrive aux gens qui disent être enlevés par des extraterrestres n'a pas une explication pathologique. Maintenant, il faut l'expliquer, il faut savoir comment est-ce qu'un psychiatre, comment est-ce qu'un psychologue, quand il a en face de lui quelqu'un qui lui raconte ce type d'histoire, réussit à dissocier dans ce discours ce qui peut être pathologique de ce qui ne l'est pas. Quand éventuellement il identifie un comportement psychotique ou schizophrène, est-ce que ce comportement-là est lié à l'expérience que la personne dit vivre, ou est-ce que c'est la cause de l'expérience? C'est-à-dire, est-ce que la personne est psychotique et elle invente tout un monde, tout un délire, auquel cas il faut apporter une réponse thérapeutique pour l'aider, qui n'est pas forcément la même que si cette personne a vraiment, j'ai entre guillemets, été enlevée par des extraterrestres, chose dont la réalité aussi là est sujette à un certain nombre de questions. Donc en fait, j'ai rencontré une femme qui est psychothérapeute, qui s'appelle Roberta Colasanti, et qui a travaillé pendant des années avec John Mack. Elle était en binôme avec lui, en fait, à chaque fois qu'il rencontrait, qu'il faisait une session de travail, un entretien avec un patient, Roberta était là constamment. Donc elle a une expérience clinique et pratique très 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 importante. Et ce qui m'intéressait de voir avec elle, et puis avec le lendemain un autre psychiatre, Jeff Rediger, qui est directeur du département de psychiatrie de l'hôpital de McLean près de Cambridge, c'était aussi de savoir avec eux comment est-ce que, voilà, quand ils ont quelqu'un qui leur raconte une histoire complètement folle, comment est-ce qu'ils arrivent à savoir que cette personne est, oui ou non, folle. Donc, on va peut-être pas entrer dans le détail parce que c'est un peu touffu, et puis c'est vraiment l'objet de l'ensemble du bouquin. C'est pas, y a à la fois, je dirais, des méthodes qu'on appelle en psychologie de diagnostic différentiel, c'est-à-dire une méthode d'approche très clinique, avec des questionnements précis, avec éventuellement la nécessité pour le patient de remplir un questionnaire sur qui va pas être porté précisément sur la nature de l'expérience, mais qui va porter plus sur son profil psychologique, sur son histoire, sur tout ce qui fait sa personnalité, qui permettent d'identifier un certain nombre de cas, qui permettent d'identifier la figure générale psychologique de la personne. Et puis ensuite, je dirais que c'est un travail plus d'exploration, psychiatrique du discours de la personne. Moi, ce qui est ressorti vraiment de ces discussions, c'est déjà ce que j'avais découvert avec John Mack, c'est que les gens qui rapportent ce type d'expérience, là où je parle donc des enlèvements extraterrestres, sont des gens qui à l'évidence ne montrent pas de signes de désordre particulier. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une expérience qui arrive dans leur vie comme un cheveu sur la soupe. C'est pas quand quelqu'un souffre d'une psychose, c'est quelque chose qui va affecter d'une part le discours et l'expérience qu'il dit vivre, mais qui va affecter aussi l'ensemble de ses personnalités. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à fonctionner en communauté, qui va avoir des problèmes de relationnel avec sa famille si elle en a. Donc on va avoir un certain nombre de possibilités d'identifier un problème sur plein d'aspects de cette personne. Or là, John, comme Roberta, comme Jeff, comme tous les psychiatres qui travaillent sur ces sujets-là, sont confrontés à des gens qui fonctionnent complètement normalement, qui n'ont aucun désordre apparent dans leurs relations amicales, professionnelles, familiales, et puis qui, comme un cheveu sur la soupe, rapporte une expérience dont les caractéristiques sont, elles, absolument incroyables. Donc ça pose une question déjà, pourquoi est-ce que on aurait un comportement pathologique alors que l'ensemble de la personnalité ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, l'objet central du questionnement qu'on a et qu'on a sur l'ensemble des expériences extraordinaires, qui est peut-être plus frappant et encore plus important sur les enlèvements extraterrestres, parce que c'est vraiment l'expérience parmi lesquelles la plus importante, la plus impressionnante et la plus incroyable. Enfin, c'est hallucinant de s'imaginer que des gens sont enlevés par des petits bonhommes. Donc là, on a avec Paul, on a pu avancer vraiment dans l'exploration d'outils qui vont nous permettre, nous, d'appliquer cette méthode ici en France, parce que c'est aussi l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir former des thérapeutes ici aux techniques de travail qui ont été développées par des gens autour de John Mack et d'autres dans le milieu médical en France. Donc on organisera d'ailleurs un séminaire en fin mars, normalement, avec des thérapeutes américains qui viendront ici. Et ça, c'était assez intéressant, parce que je repense à j'ai posé la question à ce psychiatre de l'hôpital McLean, Jeff Rediger, de pourquoi est-ce que lui tout d'un coup s'est intéressé à ces questions-là. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour il a vu en un patient non plus quelqu'un qui était forcément fou, mais quelqu'un qui lui racontait quelque chose auquel il n'avait plus de réponse. Et il nous a rapporté le cas là d'une femme qui disait avoir vécu des expériences d'enlèvement un peu classiques et qui avait développé des capacités psy, c'est-à-dire ça, on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres expériences, des gens qui ont vécu des NDE ou des expériences de cette nature développent des capacités extrasensorielles. Ils arrivent on dit souvent qu'ils bousillent les ordinateurs qui sont auprès d'eux, que leur monde s'arrête, mais qui peuvent aussi développer des capacités extrasensorielles, c'est-à-dire des capacités de précognition, de vision à distance, de rêve prémonitoire. Et cette femme-là faisait des rêves prémonitoires, je crois même qu'il y en a un qui concernait d'ailleurs le 11 septembre. Et chose importante, elle en avait fait part à Jeff quelques jours avant. Donc quand le 11 septembre est arrivé, ça a été extrêmement frappant pour lui, et tout d'un coup, il a vu cette personne, cette femme, non plus comme un sujet pathologique, mais comme un sujet qui lui posait un vrai questionnement sur le fond. Et il s'est dit, mais est-ce que ce que j'ai appris, je vous le réduis à l'extrême parce que c'est un peu synthétique là ce que je raconte, mais en gros il s'est posé la question de savoir si les classifications et le modèle qu'il avait appris pendant des années à l'université étaient applicables à cette personne en face de lui. Voilà.
Non, je suis en train de t'écouter, je suis en train d'imaginer la grille de lecture que doivent mettre en place les chercheurs, les scientifiques pour ces nouveaux modèles, et se demander si les anciennes grilles de lecture conviennent encore, s'il faut rajouter des choses, s'il faut rester dans le classique ou s'il faut rajouter des questions, en fait, c'est ça. Mais je pense que pour bien comprendre, il faut rester dans le classique.
Je crois que c'est important, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs moi, je pense qu'il est important de travailler avec des gens qui sont des professionnels en santé mentale. Encore une fois, non pas parce que les gens qui vivent ces expériences sont fous, mais justement parce qu'ils ne le sont pas. Et les meilleures personnes pour valider de cet état-là sont justement les psychiatres et les psychologues, les gens qui ont l'habitude, qui ont les outils pour diagnostiquer ces choses-là. Alors évidemment, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres qui n'ont pas envie de se poser ces questions-là, qui, confrontés à des phénomènes inexplicables dans leur quotidien, à l'hôpital ou auprès de patients, ne veulent pas en entendre parler. Combien de psychiatres, je crois que d'ailleurs tous les psychiatres sont confrontés à des patients schizophrènes qui, un jour ou l'autre, leur disent quelque chose qui n'est pas possible. Beaucoup de psychiatres m'ont dit que les schizophrènes semblent avoir des capacités justement psy, c'est-à-dire de vision à distance, de délocalisation, de choses comme ça. Et alors quand c'est un jeune psychiatre qui nous avait contacté, qui m'a raconté cette histoire où quelqu'un qui était à l'isolement, un patient qui était en isolement dans une cellule de contention, impossible de sortir, avait raconté par le détail ce qu'avait fait un autre docteur qui était sorti, qui s'était promené en ville, etc., etc. Ce type-là était en isolement, il pouvait rien voir, et pourtant il racontait votre docteur, il est allé à tel endroit, il a fait ci, il a fait ça. Donc voilà, face à ce comportement, malheureusement, mais comme tous les êtres humains, une majorité des soignants décident de ne pas se poser de questions et de se dire, bon, c'est bizarre, si cette personne n'est pas dangereuse, c'est pas grave, si cette personne est dangereuse, on va lui donner des médicaments et ça va la calmer. Mais voilà, on arrête là le raisonnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui utilisent les outils qu'ils ont obtenus à l'université pour essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'un type qui est dans une cellule d'isolement capitonné réussisse à savoir ce qu'il y a à l'extérieur, ce que j'ai fait moi dans la journée à l'extérieur?
Alors, tu vas nous parler des outils et des recherches de chacun spécifiquement dans quelques instants, mais restons juste encore quelques secondes, vraiment uniquement sur ces personnes ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a un profil psychologique type qui se dégage après ces événements particuliers qui leur arrivent dans leur vie tout à fait classique? Est-ce qu'on retrouve vraiment un point commun dans toutes ces personnes, à part peut-être une crise de mysticisme ou je ne sais quoi, mais plus psychologiquement parlant?
Ben non, justement, en dehors de l'expérience elle-même, ça c'est justement un des points qui permet de faire une approche clinique initiale, c'est d'essayer de voir s'il y a un facteur dénominateur commun entre tous les gens qui rapportent le même type d'expérience. Donc c'est les premières études qui ont été faites, je me souviens d'en avoir parlé pas mal avec John Mack, et non, justement, ce type d'expérience, enfin, pour ce qui est notamment des enlèvements extraterrestres, ça arrive à des gens qui sont d'origine sociale, culturelle, ethnique, que tout oppose, il n'y a pas de trame commun. On a essayé d'imaginer, parce que peut-être des abus sexuels dans l'enfance, par exemple, pourraient générer ce type de fantasme, ce type d'illusion. Alors, effectivement, ça peut fonctionner dans 3 cas, 4 cas, parce que voilà, le patient a eu effectivement des histoires d'abus sexuels dans l'enfance, mais puis le cinquième, ça ne va pas du tout être le cas. Donc, il n'y a aucune généralité, aucun profil psychologique d'unifier l'ensemble de cette population.
Je comprends bien, mais après l'événement, est-ce que toutes ces personnes ont un point commun qui se développe après l'événement? Avant, d'accord.
Oui.
Avant, ils ont tous finalement des vies assez classiques, avec des petits traumas, comme on peut tous en connaître, mais rien qui les démarque des autres. Mais après, quel est le...
Effectivement, après, ce qui est souvent observé, et là, ça concerne beaucoup de types d'expériences particulières, que ce soit les enlèvements, les NDE ou autres, il semble que ces gens-là, un certain nombre de témoins, réussissent à avoir... un accroissement de ce qu'on appelle les capacités psy. Donc ça peut être une augmentation de l'intuition, ça peut être plus fort encore, ça peut être vraiment des capacités de perception à distance, extrasensorielles plus affirmées. C'est comme si... ça, c'est Paul Bernstein qui utilise cette image-là, qui est une image purement théorique, mais que je trouve assez intéressante. C'est comme si l'expérience extraordinaire, quelle qu'elle soit, avait brisé les barrières de l'ego, c'est-à-dire avait brisé le modèle ontologique fermé que l'on s'imagine en étant une personne. Tout d'un coup, on a vécu une NDE, donc on a vécu une expérience où on n'était plus soi. On était autre chose, où on a vécu une expérience chamanique, où pareil, on n'était plus soi-même, on a continué à percevoir notre environnement, on a vécu une expérience qui a pu être d'une intensité colossale, mais sans être soi-même. C'est difficile à concevoir mentalement, verbalement, parce que malheureusement, le langage va être extrêmement réducteur, mais j'ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences chamaniques, qui ont vécu des NDE, qui ont vécu tout type d'expériences, qui dépassent vraiment, vraiment, fondamentalement leur limite propre, leur personnalité, je me souviens d'un monsieur qui se reconnaîtra peut-être, qui est toulousain, qui est un monsieur qui a vécu une NDE en 1949, et ça m'avait beaucoup frappé parce que pendant l'interview que je faisais avec lui, il me décrivait le moment où il percevait son corps. Il s'était tiré une balle accidentellement, une balle à blanc dans la poitrine, enfin à l'époque c'était des balles en bois, donc il avait des bouts d'écharde en bois partout dans la poitrine, dans le plexus, dans le foie, et il a fait une NDE pendant son transfert à l'hôpital. et il s'est vu décorporé en haut, comme une NDE classique, dans un coin de la pièce, avec le chirurgien travaillant sur son corps, son foie dans la main, en train d'enlever les bouts d'écharde, et travailler avec un bout de laser. Ce qui m'a frappé, c'est que quand je, pour être bien sûr de tout comprendre, je dis « mais c'est votre corps qui était sur la table d'opération », le témoin me dit « non, c'était pas moi. Moi, j'étais dans un coin de la pièce ». Je dis « mais c'était votre corps, c'était vous. Non, c'était pas moi. Moi, j'étais dans un coin de la pièce. Ce corps-là, c'était un corps qui n'était plus moi du tout. » Alors oui, effectivement, c'était son corps, c'était le corps physique qu'il habitait, mais il avait une telle intensité d'être dans cette phase de NDE, que le corps qui était le sien, un jeune corps musclé d'un beau gars de Toulouse, était plus ce qui représentait sa personnalité. Donc après une expérience comme ça, ce que dit Paul, c'est qu'on revient et il y a une partie de nous-mêmes qui reste connectée à une partie impersonnelle de nous. C'est le fondement de la psychologie transpersonnelle, d'ailleurs, qui essaye d'identifier, de cartographier les perceptions, les sensations, les parties de nous qui, dans des expériences spontanées ou non spontanées, dépassent le cadre de notre personnalité, de notre ego, de notre moi.
C'est une personne qui est née en 1949.
Non, qui a eu sa NDE en 49.
Sa NDE en 49,
ouais, et une vingtaine d'années.
Et le médecin a utilisé des lasers pour.
Alors je me trompe peut-être. Je crois que c'était un bisturi électrique, pas laser. Excuse-moi, mais c'était ouais.
Ça me parle plus pour l'époque.
Même non, je si dis je laser suis pas spécialiste, parce que c'était justement un des facteurs assez troublants dans la NDE, c'est qu'il avait observé cet outil qui était à l'époque expérimental parce qu'il était utilisé depuis quelques mois seulement, et en plus pour opérer un foie, ce qui se faisait pas du tout. Donc, mais non, c'était pas laser évidemment, mais c'était un bisturi. Je sais plus la spécificité technique, mais qui était pas un outil, un bisturi normal, quoi.
Pas quelque chose de classique.
Non.
Alors, justement, je prends cette date, cette personne, donc qui a eu cette NDE à 20 ans en 1949. Est-ce que ces témoignages, quel qu'il soit, on parle de NDE, on parle d'abduction, il y a d'autres sujets aussi. Hein. Est-ce qu'ils sont plus fréquents maintenant? Ce que je veux dire par là, est-ce qu'ils sont plus libres? Est-ce qu'on se permet plus de les faire, ces témoignages? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème, tout comme le sujet extraterrestre, ce problème aussi du copier-coller? On a vu, on a entendu, on imprime et puis on ressort à un moment. Comment faire le tri?
Bah, c'est justement en le faisant pas soi-même, en le faisant avec une méthodologie qui est éprouvée. Justement, j'ai parmi les personnes que je suis allé voir, je suis allé revoir Bud Hopkins, qui est, comme les auditeurs le savent, un des pionniers de la recherche sur les enlèvements extraterrestres, pour discuter de ces questions-là, justement, à New York. Et Bud m'a redit d'ailleurs quelque chose que Bud et Leslie Kinn, qui étaient avec lui ce jour-là, m'ont redit, ce que John Mars, que David Jacob et les autres enquêteurs sur ces sujets-là font d'ordinaire, c'est qu'ils gardent secret, toujours aujourd'hui d'ailleurs, des détails, des caractéristiques que les enlevés leur ont rapportées de l'expérience, des petites choses insignifiantes, mais qui si elles sont absentes d'un récit d'un nouveau témoin, vont peut-être jeter le trou, se dire bon bah si ce type-là me parle ni de ça, effectivement il y a la possibilité qu'il ait imprimé ce discours en l'ayant lu autre part. Donc après, dans un travail d'analyse, d'expertise psychologique, on va assez rapidement, il faut du temps, c'est pas une baguette magique, mais assez rapidement, on peut identifier un motif au fait que cette personne ait inventé ce discours, on peut identifier un certain nombre de caractéristiques. Et puis quand il y a des doutes, c'est ce qu'avait fait John Mack et c'est ce que font les autres chercheurs sérieux, quand il y a des doutes, ces gens-là ne font pas partie du panel de témoins qui sont présentés dans un ouvrage, dans une étude. La première étude clinique qu'avait fait John Mack portait sur 40 expérienceurs et 40 personnes, je dirais, de contrôle qui n'avaient pas vécu d'expérience. Et le travail sur lequel s'était vraiment attelé Roberta Colasanti et John était vraiment d'identifier dans les patients qu'ils recevaient, qui disaient vivre ces expériences-là, ceux qui avaient des caractéristiques d'une psychose X ou Y. Alors, ils ont même eu des gens dont ils étaient absolument convaincus de la réalité de l'expérience d'enlèvement, mais qui avaient quand même des symptômes psychotiques qui pouvaient être générés par cette expérience, par la difficulté de l'intégrer dans la vie quotidienne ou par un trauma. Du coup, ces personnes-là étaient exclues de l'étude proprement dite. Bien sûr, on leur apportait une réponse et on les traitait en tant que patients, mais dans l'étude clinique, il n'était plus mentionné. Donc, voilà, pour les enlèvements, il y a ce type-là. Après, après, je crois qu'on est dans un domaine où on mêle à la fois des outils qui sont des outils d'expertise, et puis du bon sens, et puis de l'expérience de psychanalyste. Comme moi, je peux avoir une expérience d'enquêteur et de journaliste. Quand je fais une enquête, que ce soit sur un sujet entre guillemets normal comme ceux que je traitais avant, trafic de drogue, je suis capable de savoir au bout d'un certain nombre d'entretiens si quelqu'un me raconte des histoires, s'il y a des zones d'ombre, de doute, et je décide in fine d'utiliser ou de ne pas utiliser un témoignage en fonction de mon opinion. On peut être floué, bien sûr. John l'a été par une journaliste du Times qui s'était fait passer pour une enlevée et qui avait justement semé un certain nombre de doutes, mais elle avait passé les barrières et puis elle avait fait un grand scandale dans une conférence de presse en disant à tout le monde qu'elle avait piégé John Max, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais voilà, donc ça, ce sont des choses qui peuvent se produire. Le problème se pose quand on est dans une démarche d'enquête et de vouloir prouver ces choses-là. Or, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'à vouloir s'engager dans cette voie, de vouloir absolument convaincre tout le monde de la réalité de ces expériences-là, on est peut-être un peu présomptueux et on va peut-être un peu trop vite en besogne parce que la science manque de certains nombres d'outils pour pouvoir travailler là-dessus. Je ne dis pas que ces expériences sont irréelles, mais elles se passent dans une dimension dont certaines caractéristiques échappent complètement à notre mode de fonctionnement, à notre mode de perception, à notre mode de compréhension. Quand on a affaire à un objet volant non identifié dont on détecte la signature radar, la trace et la trajectoire, ok, c'est à peu près assez simple de s'imaginer que c'est un objet, c'est à peu près assez simple de comprendre son déplacement. Mais quand tout d'un coup cet objet fait une accélération spontanée de 3000 à l'heure, chose qui est impossible, qu'il n'y a pas de banque sonique, qu'il n'y a pas de réaction de matière dans l'environnement, tout d'un coup il y a un problème physique fondamental qui est posé. Donc comment ce phénomène peut être abordé? Est-ce qu'on peut utiliser des outils de science? Quand, à l'inverse, des témoins comme des pilotes militaires que j'ai pu rencontrer en France ont observé des phénomènes absolument indiscutables, qu'il n'y avait pas de problème d'oxygène, qu'ils ont vraiment vu un phénomène dans le ciel, mais que le contrôleur radar au sol n'avait rien sur son scope, c'est quoi ce phénomène? C'était quand même un objet, ça a secoué les appareils, ça a modifié fondamentalement le cadre de référence et la réalité de ces pilotes, dont certains les ont vus il y a plus de 30 ans. Pourtant, il n'y avait pas de signature radar. Donc, voilà, à d'autres moments, il y a des objets qui, tout d'un coup, disparaissent, comme par enchantement, comme s'ils s'évaporaient dans l'atmosphère. Donc, ça fait dire aux sceptiques, bon, voilà, c'est bien facile, il n'y avait rien, c'est juste un problème de perception, c'est une illusion, c'est une hallucination. Moi, je ne crois pas, vu la consistance des cas, enfin, on va pas refaire ce dossier-là, mais je suis maintenant convaincu de la réalité de bien des expériences et bien des phénomènes. Mais, voilà, vouloir s'y attaquer avec nos outils aujourd'hui, en voulant modéliser absolument le type de propulsion, par exemple, des ovnis. Bon, il y a des gens qui le font et il y a un certain nombre de chercheurs et de scientifiques très très compétents qui estiment que justement c'est en faisant ça qu'on arrivera à légitimer le sujet. Je rentre pas dans le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter une réponse un peu plus souple aux gens qui disent avoir été témoins de ça. Alors, les gens qui ont vu un ovni, ça peut être, pas être extrêmement traumatisant, ça peut ouvrir un certain nombre de questions dans leur vie, mais ça va pas les traumatiser d'une façon pérenne. En revanche, des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres ou qui disent avoir été enlevés, des gens qui ont traversé des NDE négatifs, par exemple, ou des gens qui pensent être possédés ou qui pensent vivre dans une maison hantée, là, ça peut dégénérer dans quelque chose de totalement traumatisant qui peut avoir des conséquences même fatales sur la personne.
Lorsqu'un scientifique ou un chercheur fait un panel, réunit des personnes qui répondent justement à ces interrogations et qu'il les met ensemble dans une même pièce sans les prévenir forcément avec d'autres personnes qu'elles n'ont rien vécu ou qui font partie du staff, est-ce qu'il y a un phénomène de reconnaissance
J'ai pas bien compris. Là.
Est-ce qu'il y a une, pour ces personnes qui sont étudiées par exemple par Dr Mack, elles sont étudiées, ils se rendent compte que certaines personnes vraiment leur témoignage lui paraissent fiable. Ces personnes-là, il en est sûr, il s'est passé quelque chose. On les réunit toutes dans une pièce avec d'autres personnes qui joueront des personnages lambda. Est-ce que les personnes qui ont vécu un phénomène extraordinaire, une expérience extraordinaire, se reconnaissent, que je veux dire par là, pas disent toi je t'ai déjà vu, se ressentent et parlent plus facilement les unes avec les autres. Est-ce qu'on a déjà mené ce genre d'expérience?
Oui, d'ailleurs c'est un des fondements des réponses thérapeutiques qui sont proposées, et notamment par John Mack, mais par Bud Hopkins aussi. C'est des thérapies de groupe, c'est-à-dire que des gens qui vivent des expériences et qu'ils ne peuvent pas exprimer en famille ou auprès d'autres personnes, bah, ils vont avoir beaucoup plus de facilité d'échanger ça entre groupes. Et effectivement, ce que tu dis, ils se reconnaissent.
Ils se reconnaissent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au début, ils ne savent pas que les autres ont vécu quelque chose. Ce que je veux savoir, c'est s'il y a un lien invisible qui se crée entre ces personnes. Qu'elles ne sachent pas, je parle même pas d'une réunion de groupe où tout le monde dit, bon voilà, les 15 personnes qui sont là autour de la table ont vécu quelque chose. Non, ça j'imagine qu'on en parle plus facilement avec son voisin, mais qu'on ne sache pas que la personne à côté a vécu quelque chose, mais qu'on ressente.
Oui, enfin dans les expérienceurs, les enlevés que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai développé une relation amicale, c'est vrai que plusieurs m'ont dit que quand ils sont confrontés à quelqu'un de nouveau, ils savent si cette personne a vraiment vécu ces expériences ou pas. Bon, là, ça, c'est du ressenti subjectif, mais
c'est de ça dont je te parle, c'est incalculable.
Oui, c'est très fort. Il y a le sentiment de partager un certain nombre de choses en commun, de savoir de quoi on parle. J'ai rencontré d'ailleurs tout début janvier plusieurs abductés qui étaient proches de John Mack et qui essaient de faire des groupes et de faire avancer le travail. Ça fait partie d'abductés qui justement ont dépassé le cadre du trauma, qui sont vraiment maintenant dans une position où ils ont réussi à intégrer leurs expériences de façon totalement claire et aboutie, et qui essaient de faire avancer un peu les choses parce qu'ils se disent mais nous on ne les écoute jamais. Les chercheurs sont écoutés, les gens comme John Mack sont écoutés, ils donnent leur opinion, mais nous on a vécu une expérience, on a aussi une capacité de parler de cette expérience, de dire ce que ça nous a fait, en quoi ça nous a fait évoluer, et voilà. Et ces gens ont souvent un discours très intéressant parce qu'ils ont une capacité à identifier et à parler des mêmes choses ensemble d'une façon assez forte. Mais effectivement, ce que tu dis est parfaitement exact. Plusieurs fois, les enlevés m'ont dit oui, ben ça, elle, je vois qu'elle, elle a vécu ça. Ou alors, à l'inverse, ben non, elle me raconte des cracks, elle a rien vécu du tout.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Adix, journaliste, grand reporter et fondateur de l'INRES. Alors Stéphane, lors de ce voyage, où es-tu encore allé et qui as-tu rencontré?
Oui, parce qu'on va pas rester qu'avec les extraterrestres. Comme je le disais, effectivement, l'objectif de ce voyage était de rencontrer le maximum de chercheurs qui ont travaillé sur tous les types d'expériences. Donc après avoir travaillé à Boston et New York, je suis parti en Virginie, à Charlotteville, qui est une petite ville de Virginie, dans laquelle est situé le centre de recherche. Alors comment ça s'appelle? Attends, je vais retrouver le nom exact parce que Division of Perceptual Study, qui est dirigé par Bruce Grayson, qui est un psychiatre, qui est bien connu des gens qui travaillent sur les NDE, parce que c'est un des chercheurs phares du dossier NDE, expérience de mort imminente. Et Bruce Grayson est quelqu'un qui notamment s'est penché sur le sujet qui nous intéressait beaucoup, de savoir quelles sont les conséquences thérapeutiques de ces expériences sur les gens. Qu'est-ce que ça fait de vivre une NDE? Et lui, il est vraiment attentif à ça parce que il a voulu faire avancer un peu le schmilblick sur ces questions-là et les sortir du débat. Alors, les NDE, ça prouve vraiment qu'il y a une vie après la mort, pour s'intéresser vraiment aux conséquences que ça a sur les personnes. Je crois que c'est Kenneth Ring qui est le premier à essayer de déplacer un peu le débat et de se dire regardons ces expériences et regardons les conséquences qu'elles ont sur les gens. Et Kenneth Ring, dans ses bouquins et dans ses recherches, avait vraiment mis en avant le fait que des gens très régulièrement changeaient radicalement de vie après une NDE. Ils avaient vécu une expérience transcendante, le tunnel, la lumière, avec un espèce d'amour inconditionnel qui émane de cette lumière. Là aussi, je